Le récit des mages dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, est habituellement interprété comme représentant l'hommage des païens à Jésus-Christ. On sait en effet qu'il n'était pas roi, mais c'était des prêtres babyloniens. Et donc ce que le texte veut nous dire très simplement en première lecture, c'est que même les autres religions reconnaissent Jésus-Christ comme plus grand qu'eux, comme étant le fondement de leur espérance et de leur foi, et que le Christ accomplit l'attente et l'espérance de toutes les religions, et pas simplement des chrétiens. Donc ces mages arrivent à Jésus, ça c'est vrai. Mais ce qui me frappe à la lecture de cette histoire, c'est qu'ils y arrivent par un chemin incroyablement détourné. En effet, nous avons la mémoire des récits de notre enfance nous disant que les mages ont suivi l'étoile jusqu'à Jésus, mais quand on regarde de près le récit, on voit que cela n'est pas vrai. L'étoile ne les a absolument pas conduits au Christ, eux ne savaient absolument pas où aller, et donc ils vont à Jérusalem à tout hasard en se disant probablement que c'est là qu'il doit se passer les choses importantes, et là ils vont demander aux prêtres, ils vont demander aux scribes, aux théologiens, et c'est eux qui leur indiqueront l'endroit où aller. Et ce chemin détourné m'a fait voir que dans cette histoire, en fin de compte, tout est bizarre, tout est détourné, tout est curieux, rien n'est vraiment normal, dirais-je. La première bizarrerie, c'est qu'ils étaient astrologues. On sait en effet que la religion babylonienne était très férue d'astrologie, et donc ces mages étaient astrologues. On le voit parce qu'ils suivent une étoile, ils voient dans le ciel une étoile, ils trouvent que c'est le signe de quelque chose. Bref, ces mages sont des astrologues. Or, l'astrologie est très mal vue dans la Bible, même très 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 mal vue. C'est considéré comme de l'idolâtrie, comme de la magie, comme quelque chose qui est une abomination aux yeux de l'Éternel, comme dit le texte. Eh bien voilà une première chose curieuse, c'est que la Bible elle-même nous donne comme premier exemple d'adorateurs de Jésus des hérétiques. Les premiers à adorer Jésus ne sont pas des gens bien comme il faut, mais ce sont des hérétiques, des astrologues, des gens qui pratiquent quelque chose qui est abominable aux yeux de l'Éternel et qui apparemment ne se convertissent pas. Ils continuent de suivre leur étoile jusqu'à Jésus. Et ensuite, ils rentrent chez eux et on ne nous dit pas qu'ils abandonnent leur religion magique. Eh bien ça, c'est quand même très bizarre, en effet. Où sont-ils, les gens bien pensants? Les prêtres, les théologiens, eh bien, ils sont à Jérusalem, tranquillement, dans leurs temples, dans leurs églises. Et eux, apparemment, ils savent beaucoup de choses. Ils savent où est Jésus, où il doit naître, mais ils n'y vont pas. Et donc, je trouve que dès le départ, ce texte est vraiment très inattendu et, je dirais, très déstabilisant, même par rapport au bon ordre religieux et social, de nous dire que, finalement, ce sont les hérétiques, les premiers, peut-être, à trouver le Christ. Peut-être, en effet, faut-il être un peu hérétique pour pouvoir découvrir le Christ. Peut-être ne peut-on découvrir le Christ que si l'on a cette espèce d'originalité, de liberté qui nous permet de découvrir ce que les autres ne voient même plus, tellement ils sont enfermés dans leur doctrine et dans leur pratique. Et je crois que cela va tout à fait dans le sens d'ailleurs de l'ensemble de l'Évangile. Quand Jésus nous dit que bien souvent les prostituées, les péagers, les pécheurs sont plus proches du royaume de Dieu que les pharisiens qui étaient les professionnels des bonnes œuvres et de la bonne doctrine. Là encore, dans le reste de l'Évangile, nous le verrons, ce ne sont pas les champions des bonnes œuvres et de la bonne doctrine qui seront les plus proches du Christ, mais justement parfois ceux pour lesquels il y a comme une faille dans leur existence. Mais néanmoins, il y a une chose positive dans leur hérésie à ces mages. C'est que leur hérésie les a amenés à se mettre en marche. Ça les a amenés à chercher, à cheminer. Et je crois qu'il y a là quelque chose de fondamental. La Bible, évidemment, ne va pas valoriser l'erreur, de même que le Nouveau Testament ou l'Évangile ne valorise pas le péché. Il ne va pas dire puisque Jésus accueille les pécheurs, est-ce que je devrais pécher davantage pour être plus proche de Dieu ? Paul répond à la question en disant « Certainement pas ». Mais néanmoins, je pense que l'on ne peut pas s'approcher de Dieu tant que l'on est dans une sorte d'illusion de la perfection et de la pensée bien comme il faut. Les erreurs peuvent être négatives. Elles sont négatives quand elles nous immobilisent. Les erreurs sont négatives quand elles nous empêchent de nous mettre en marche et en mouvement. Mais nos erreurs peuvent être positives quand elles nous mettent en route, justement, quand elles nous incitent à cheminer, à chercher et à avancer. Et le péché, de même, peut être négatif s'il nous bloque, mais il peut être positif s'il nous invite à demander pardon, s'il nous invite à nous rapprocher de Dieu, s'il nous invite à nous repentir. Le problème, c'est que même nos vertus peuvent parfois nous immobiliser. Et ça, je le crois. Il n'y a pas que le péché ou l'erreur qui peut nous immobiliser. Nos vertus peuvent nous immobiliser, parce qu'elles peuvent nous empêcher de nous remettre en cause, elles peuvent nous empêcher d'être avides, de trouver autre chose que ce qu'il y a en nous-mêmes. Et nos vertus peuvent nous empêcher d'accueillir la nouveauté qui se présente à nous. Et là, peut-être, est l'essentiel. C'est que le Christ, eh bien, c'est de la nouveauté. Le Christ, c'est du jamais vu. Et même dans nos existences, ce que le Christ peut apporter, c'est du jamais vu, c'est de l'extraordinaire. Nous ne pouvons pas aujourd'hui imaginer ce que le Christ peut nous apporter demain dans notre existence. C'est quelque chose d'inimaginable. Et donc, pour accueillir le Christ, il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à tout. Le Christ, c'est de la nouveauté, vous disais-je. C'est la vie. Le Christ, c'est le bonheur. C'est le royaume de Dieu. Et la vie, c'est a priori, par définition, de l'inattendu. C'est quelque chose de neuf, de totalement neuf. Peut-être est-ce pour cela aussi que Jésus dira un peu plus loin qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant. En général, on l'interprète en disant qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant accueille le royaume de Dieu. Mais on pourrait le lire autrement, en disant qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme des parents accueillent un petit enfant dans leur existence. Mais un petit enfant dans une vie, c'est quelque chose d'incroyablement dérangeant, d'incroyablement neuf et d'incroyablement impossible à prévoir. C'est imprévisible, un enfant. Au moment de sa naissance et tout au cours de sa vie, un enfant est imprévisible. Et il faut accueillir le royaume de Dieu comme on accueille un enfant, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'est pas nécessairement comme nous l'avions imaginé. Il faut avoir une disponibilité totale, se laisser surprendre et avoir de la place pour lui. Il y a deux catégories de gens qui ne peuvent rien trouver. Il y a les sceptiques qui pensent qu'il n'y a rien à trouver. Et il y a les dogmatiques qui sont trop sûrs d'eux-mêmes et qui pensent avoir déjà tout trouvé. Le pécheur, l'hérétique, il peut être justement celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui se sait pauvre. Il peut être celui qui pleure, comme dans les Béatitudes. Heureux celui qui a faim, heureux celui qui a soif, heureux celui qui pleure. C'est celui qui cherche, celui qui quête, celui qui avance, celui qui veut du neuf, celui qui veut de l'inattendu, et celui qui est prêt à accueillir ce qu'on lui donnera, il ne sait pas quoi, mais on lui donnera quelque chose et il dira « Oui Seigneur, Amen ». Au moment de l'année où l'on fait des vœux, on se rend compte que la plupart des vœux que nous faisons ou que l'on nous fait sont en fait que tout reste comme c'est, que surtout rien ne change en fait. Pas de surprise, pas de nouveau, que tout reste en état. Eh bien moi, je ne vous souhaite pas ça. Je vous souhaite quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Quelque chose qui va peut-être bouleverser votre vie et vous ne savez pas d'où ça va venir. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'en avez aucune idée. Et je vous souhaite que justement dans votre vie, il arrive cette chose inattendue qui soit pour vous quelque chose de neuf et qui vous permette d'être quelqu'un de neuf, autrement que ce que vous étiez l'an dernier. Alors ça n'est pas forcément une grande chose. Les grandes choses sont faites de multitudes, de petites choses. Ce n'est pas forcément une chose extraordinaire, mais ça peut être des petites choses. Et ce sont ces petites choses qui font que finalement on avance, et quand on regarde le chemin que l'on a parcouru, on se dit « Tiens, c'est vrai, il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, je n'aurais jamais pu imaginer en être là où j'en suis aujourd'hui. » Eh bien, il faut accueillir les choses positives, parce que les choses négatives que vous ne prévoyez pas, elles s'imposeront à vous. Et cela, vous ne pourrez pas y couper. Par contre, les choses positives ne s'imposent jamais. Elles sont là, à disposition, et il faut savoir les accueillir, les recevoir, les comprendre. Et c'est grâce à ces choses positives que nous pourrons contrebalancer les choses négatives qui s'imposeront à nous et que nous pourrons ainsi cheminer dans un chemin de lumière, de paix, de vie et de joie. Et ça, c'est le propre de toute la création et de toute l'évolution du monde. C'est que un instant ne peut jamais se déduire du précédent. La vie est sans cesse explosion de nouveautés. Et ce que le monde est aujourd'hui n'est pas compris dans ce qu'il était hier. Il y a eu un apport d'informations. Il y a eu quelque chose de neuf qui est apparu et que l'on ne pouvait même pas imaginer. Et c'est pourquoi il faut cette disponibilité qui permet d'accueillir le neuf et éviter, je crois, les chemins trop bien tracés. Pour découvrir la vie, il faut avoir le courage de se perdre. Parce que la vie elle-même n'est pas linéaire, mais elle est sinueuse. Et le chemin qui mène au royaume, ce n'est pas une autoroute toute droite, nous dit le Seigneur, c'est un chemin étroit et tortueux, et peu sont ceux qui le trouvent. Il y a un proverbe juif que j'aime bien qui dit « Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, parce que tu risquerais de ne pouvoir te perdre. » Et effectivement, rien n'est plus dangereux que les gens qui savent tout, qui connaissent la vérité et qui nous disent ce que nous devons faire. Et rien n'est plus productif que de se perdre et de chercher, de regarder, d'ouvrir les yeux et d'accueillir. C'est une chose essentielle. De même qu'une fois où j'étais accueilli à Venise chez un vieux Vénitien, et il m'a dit « Pour découvrir Venise, il faut s'y perdre. Et donc laissez là vos guides verts et vos machins, perdez-vous dans les rues et dans les ruelles. C'est comme ça que vous découvrirez la ville. » Je crois que le conseil était sage et allait bien au-delà du simple fait de découvrir une ville. Et donc les mages, ils vont chercher Jésus dans des endroits inattendus. Et ils me sont de plus en plus sympathiques, ces mages. Normalement, Jésus aurait dû naître dans un palais royal, mais voilà qu'ils vont le trouver dans une humble petite maison, non pas dans la ville royale, mais à Bethléem, grotesque bourgade d'une campagne méprisée par tout le monde, et non pas dans un palais, mais dans une petite baraque, non pas chez un fils de roi, mais chez un pauvre charpentier. Eh bien, les mages, ils sont prêts à tout. Rien ne les dérange. On leur dit « c'est à Bethléem », très bien, on y va. Pendant ce temps-là, les théologiens et les prêtres, eh bien, ils ne voulaient pas y aller, restaient dans leur palais, dans leur fidélité à Jérusalem, ville royale. Et donc les mages acceptent d'aller dans ce qui dérange leur certitude de départ, leur conception des choses, leurs habitudes, les enseignements qu'ils ont pu recevoir. Ils vont chercher ailleurs, loin des sentiers battus. Et les mages, ils ont le courage de chercher et de tâtonner. Ils ont le courage de se perdre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'avaient aucune idée de là où Jésus pouvait naître. Ils vont à Jérusalem. Ils se sont trompés. Eh bien, et alors ? C'est pas grave. On continue de chercher et on ne se décourage pas au premier échec. Il faut avoir le courage d'avancer sans certitude et d'avancer comme ces mages dans la nuit, guidés par une étoile qui ne guide rien du tout, finalement. Avec une seule certitude, il y a quelque chose à trouver. Et il y a quelque chose dans cette nuit. Ce récit est plein d'égarements. Il y en a un autre qui est souvent relevé dans ce texte. Un autre égarement productif assez amusant, c'est la citation biblique que font les prêtres de Jérusalem. Ils vont trouver le lieu de naissance de Jésus grâce à une citation de l'Ancien Testament. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, c'est-à-dire tu es une grande ville. » Et donc, ils en concluent que c'est là que Jésus doit naître. Tout le monde sait que c'est une citation du prophète Michée 5, verset 2, et que si on regarde le texte original, le texte ne dit pas du tout ça. Le texte de Michée dit « Et toi, Bethléem, tu es la moindre des villes de Juda. » Et eux l'ont lu de travers en disant « Tu n'es pas la moindre, donc tu es une grande ville. » C'est quand même assez curieux. C'est-à-dire qu'en fait, les mages vont trouver où chercher Jésus grâce à une erreur de traduction. Ça, c'est étrange aussi. Ou une erreur d'interprétation d'un texte biblique. Alors ça me rassure beaucoup en un sens. Ça montre que même les erreurs peuvent être porteuses de sens. Et qu'après tout, certains me disent « Mais comment puis-je être certain de bien interpréter les textes de la Bible ?» Je dis « Ben aucune importance. Allez-y. Vous avez droit à l'erreur. Vous avez droit de vous égarer dans la Bible. Cherchez simplement. Égarez-vous, perdez-vous, faites des contresens. Ça n'a aucune importance. » Simplement, soyez disponible à ce qui va se produire. Et c'est la même chose d'ailleurs dans l'évolution des espèces. On sait très bien que l'évolution des espèces se fait par des mutations. Il y a des mutations positives et des mutations négatives. Eh bien, les mutations négatives, il faut les laisser de côté et garder les mutations positives. Mais les mutations positives sont des erreurs. Et les erreurs ne sont pas que des choses négatives. Il y a parfois des erreurs qui nous font découvrir des champs que nous ne pouvions même pas imaginer. Et la vraie disponibilité, c'est d'être capable de reconnaître justement ce que nous n'attendions pas et dans lequel se trouve quelque chose de vital. Ça me fait penser à autre chose, c'est que j'ai une grande passion pour saint Augustin. Et quand j'étais étudiant en théologie, je n'avais pas les moyens de m'offrir l'édition complète de saint Augustin en français. C'est hors de prix. Et donc j'avais acheté, à ce moment-là, une édition complète de saint Augustin en latin, ce qui fait quand même 7 ou 8 énormes volumes in folio, et j'ai toujours lu saint Augustin en latin. Le problème, c'est que je connais à peine le latin, ou très mal. Et donc je lis saint Augustin, je ne prêche jamais sur un texte sans lire ce qu'en dit saint Augustin. Alors je cherche dans mes grimoires, je lis le commentaire de saint Augustin en latin, et je trouve des choses extraordinaires. Oh, je me dis, mais quelle invention, quelle audace théologique, mais quelle idée! Personne n'a jamais pensé à ça. Et je trouve des sujets passionnants pour mes prédications. Depuis qu'il y a Internet, j'ai saint Augustin en français. Je vais lire le même passage et je me rends compte que j'avais fait une erreur de traduction. Et qu'en fait, saint Augustin disait des choses très banales qui ne m'intéressent pas du tout. Alors, j'ai abandonné mes traductions. Et je continue de lire saint Augustin en latin, et je continue de découvrir des choses auxquelles personne n'a jamais pensé. Et effectivement, la question n'est donc pas de trouver la vérité à partir d'un chemin balisé. Le but de notre vie n'est pas de suivre une piste sans en sortir ni à gauche ni à droite, mais au contraire, il faut flâner et il faut zigzaguer. Et les mages, vous disais-je, vont trouver Jésus grâce à une pratique idolâtre, grâce à des fausses interprétations, grâce à des mauvaises traductions, grâce à des erreurs de théologie. Ils vont le trouver par des fausses pistes, et donc vive les fausses pistes. Et en fait, d'ailleurs, vous disais-je, l'étoile ne les conduira pas à Jésus, et même elle va disparaître dès qu'ils trouveront Jésus. Les erreurs peuvent être profitables, mais encore faut-il savoir en sortir. Et là, les mages, effectivement, je vous ai dit, étaient idolâtres, mais l'étoile disparaît quand même quand ils trouvent Jésus. Et donc, je prétends qu'ils perdent leur astrologie. On nous dit qu'ils reviennent chez eux, certes, mais par un autre chemin. Et donc, ils vont revenir différents. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas faire de l'erreur ou de la désobéissance un système. L'erreur, la désobéissance, la liberté, ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif, mais c'est un espace heuristique. C'est un lieu qui permet de découvrir l'inattendu. Autre bizarrerie, c'est que ces mages viennent de l'Orient. Le mot « Orient » est l'un des rares mots français dont l'étymologie soit hébraïque. En effet, « Orient », ça vient de « Or » en hébreu, qui est la lumière. Et « Orient », c'est le lieu de la lumière. Normal, c'est l'Est, c'est là où le soleil se lève. Et pour les peuples du Moyen-Orient, l'Orient, c'est ce vers quoi il faut se tourner. Les cartes, encore aujourd'hui en Israël, n'ont pas le nord en haut, mais elles ont l'est en haut. Et s'orienter, c'est se tourner vers l'Orient. Parce qu'en effet, il faut se tourner, nous dit-on, vers la lumière. C'est normal, c'est l'attitude habituelle. Et même les églises chrétiennes sont tournées vers la lumière. Donc ce qui est bien, ce qui se fait, c'est de se tourner vers la lumière. Voilà. Vous cherchez la lumière, tournez-vous vers la lumière. Et voilà que ces mages, qui vont chercher le Christ, viennent de l'Orient et donc tournent le dos à la lumière. Et ça, c'est très étrange. Ils font tout à l'envers. Ils se désorientent. Ils vont à l'envers de ce que n'importe qui leur conseillerait pour trouver la lumière. Eh bien oui, il faut savoir chercher là où l'on n'attend pas, ailleurs que dans l'évidence. Tout le monde cherche la lumière. Les gens ordinaires dans le monde se tournent vers ce qui brille, vers l'or, vers la facilité. Et eux, les mages, vont tourner le dos à ça. Ils vont chercher dans l'ombre. Et ils vont vers l'ombre pour chercher la lumière. Parce que ces trésors terrestres vers lesquels nos contemporains se tournent, ils se tournent vers ce qui brille. Ils sont comme des alouettes qui se font prendre au miroir aux alouettes, comme les poissons qui se font pêcher par les lampareaux, comme les animaux la nuit qui se font prendre par les braconniers qui braquent les phares des voitures et qui sont saisis, les animaux sont saisis par ces lumières et se font attraper sans rien dire. Eh bien, ces trésors terrestres, ce vers quoi nous courons, ce qui nous omnubile, ce qui nous attire, ne sont que des miroirs aux alouettes. Ça nous attire dans une mauvaise direction. Et nous ne sommes bien souvent que comme ces papillons de nuit qui se précipitent sur la première lumière vulgaire venue pour s'y brûler les ailes. Mais les motivations terrestres ne sont d'aucun secours pour la recherche de l'essentiel. Suivre le soleil pour prétendre trouver la lumière est une erreur, parce que le soleil tourne. Le matin, il est d'un côté, le soir, il est de l'autre. Et donc, on ne peut pas faire un chemin cohérent en suivant des grandes sources de lumière. Il faut trouver autre chose. Il faut savoir chercher l'ombre pour trouver la vraie lumière. Il faut savoir chercher le silence pour entendre une parole. Il faut savoir aller à contresens de tout le monde pour trouver l'essentiel. Tout le monde leur a dit à ces mages, l'Est, c'est là, c'est devant vous, c'est là la lumière. Et eux, ils vont en arrière. Ils ont le courage de leur propre chemin et le courage d'aller ailleurs. Alors ils vont suivre une étoile qui peut-être brillait un peu moins, mais dont les commentateurs anciens nous disent qu'il y avait deux miracles. Le premier, c'est qu'elle brillait nuit et jour, et c'est-à-dire une sorte de constance, finalement, dans cette direction, dans cet idéal, en disant « bon, je me perds, mais globalement, je sais dans quelle direction je vais ». Parce que les mages, ils se perdent, mais pas sans but, ils vont quand même dans une direction, ils savent ce qu'ils cherchent. Et donc cette étoile brillait nuit et jour. Et l'autre miracle, nous dit-on, c'est qu'elle indiquait toujours la même direction et qu'elle ne tournait pas, contrairement aux étoiles qui normalement tournent dans le ciel. Alors ils ont eu, vous disais-je, le courage de faire autrement que tout le monde. Et ils vont vraiment faire tout dans le sens contraire du monde. Au lieu de demander, quand ils rencontreront le Christ, au lieu de demander des choses, puisque on imagine que nous, dès qu'on prie Dieu, la première chose qu'on pense à lui faire, c'est de lui réclamer des choses. Au lieu de demander, ils vont donner. Ça aussi, c'est à l'envers de ce que tout le monde pense. Habituellement, notre quête, elle est intéressée. Et nous disons, ah oui, je vais réfléchir, je veux la foi, parce que ça me fera du bien, ça m'aidera. Habituellement, ce que nous cherchons des choses, du bonheur, l'équilibre, la paix, l'accomplissement, eux vont faire un chemin sans rien demander. et finalement, sans rien attendre, ils le font juste pour adorer. C'est extraordinaire, la gratuité, dirais-je, de ce cheminement, qui est à contresens, vous disais-je, de ce que l'on faisait à l'époque, et même, je crois, à contresens, de souvent notre propre démarche spirituelle. Essayez, tenez, pour voir, pour fêter le jour des mages. Priez, priez Dieu longuement, et ne demandez rien, ça vous fera du bien. Et ça vous approchera de la vraie prière. Il y en a un peu assez de toujours réclamer, et Dieu en a sans doute assez d'être un bureau des réclamations. Dieu, notre prière n'est pas là pour réclamer, mais nous sommes là pour adorer. Et Dieu n'est pas un distributeur de choses, ou de ceci, ou de cela, de ce que nous voulons, de ce que nous réclamons. Mais Dieu, il est là pour qu'on lui donne le meilleur de nous-mêmes. Et en effet, cette liberté va encore plus loin, vous disais-je. Elle va encore plus loin parce que ces mages ne sont pas si sages que ça. En effet, le roi Hérode, le roi, ça n'est pas n'importe qui, leur dira « Quand vous aurez trouvé le petit enfant, venez me dire où il est. » Ordre du roi. Et les mages vont désobéir au roi. Ça, c'est étonnant aussi. Jésus aura la vie sauve grâce à une désobéissance, grâce à une insoumission à l'autorité. Et là, c'est très étrange, ces mages, je vous disais, sont vraiment très curieux, parce que très souvent, ou trop souvent, on a valorisé l'obéissance. Et en fait, l'obéissance n'est pas forcément une bonne chose. Et la désobéissance, l'insoumission, peuvent être des choses essentielles pour accéder à la vérité. C'est d'ailleurs pour cela que la tradition juive parle de ces deux sages-femmes du temps du Pharaon et de la naissance de Moïse. Le Pharaon avait demandé de tuer tous les garçons qui naissaient, et deux sages-femmes vont laisser la vie sauve aux garçons. Et donc elles vont désobéir au Pharaon. Et en plus elles vont mentir, c'est pas beau ça, parce que quand le Pharaon leur dira pourquoi, elles diront « mais c'est comme ça, on arrive toujours trop tard ». C'est pas vrai. Et donc ces deux femmes qui ont désobéi et qui ont menti, on donne leur nom dans l'écriture. Elles s'appelaient Shifra et Pua. Et la tradition juive dit, on a pris la peine de donner leur nom parce qu'elles ont fait quelque chose d'essentiel, de fondamental et de grand. Qu'est-ce qu'elles ont fait de grand? Elles ont désobéi et elles ont menti. Ça, c'est étonnant. Et en effet, je crois que la désobéissance peut être quelque chose d'essentiel dans certains cas, parce que c'est là encore la liberté. Et il paraît que dans la première déclaration des droits de l'homme, on parlait de sûreté, de liberté, d'égalité, de propriété, il y avait un devoir qui a disparu ensuite. Et ce devoir, c'était celui de la résistance à l'oppression. Et le texte disait « L'insurrection est le plus sacré des devoirs ». Ça, c'est étrange. De même que, évidemment, tout le monde pense à la guerre de 40, où on valorise la résistance. Ceux qui ont désobéi au pouvoir, ceux qui ont eu la liberté de faire le contraire de ce que l'on disait. Et l'Église allemande, l'Église évangélique allemande, qui s'est trop souvent compromis avec le pouvoir nazi, a fait une repentance après la guerre en reconnaissant qu'elle avait eu tort. Et elle dit « Notre tort, notre erreur a été de ne pas savoir désobéir ». Et ça, c'est assez extraordinaire. Elle n'avait pas accordé assez d'importance à la désobéissance et elle reconnaît qu'elle aurait dû enseigner aux enfants la désobéissance. C'est également ce que l'on dit très régulièrement avec ce que l'on appelle l'expérience de Milgram, c'est-à-dire, vous savez, ces gens qui, par obéissance, arrivent à aller jusqu'à torturer quelqu'un, au-delà, jusqu'à la mort. Et donc, il y a dans la Bible, dès le départ, cette idée que nous devons être prêts à désobéir. Mais cette désobéissance n'est pas l'anarchie. L'égarement, la désobéissance, l'erreur ne sont pas forcément créatrices. Elles peuvent être destructrices aussi, c'est vrai. Mais je crois qu'en tout cas, rien ne peut se passer sans elle. Alors le bon critère, c'est peut-être de voir ce qui met en marche. ce qui fait avancer. Ce qui est mauvais, c'est ce qui fait reculer, ou plutôt ce qui immobilise. Et quelles que soient nos erreurs, l'essentiel, c'est de chercher. L'essentiel, c'est de se mettre en marche. L'essentiel, c'est d'offrir nos vies et de donner. Et le mérite des mages, c'est que leurs erreurs ont été pour eux des dynamismes. Ça a été pour eux des façons de se mettre en mouvement, de sortir d'eux-mêmes, de sortir de leur égoïsme, d'apprendre à aller vers l'autre et d'apprendre à aller vers l'autre pour donner. Parce que finalement, c'est ça le seul fil conducteur. C'est l'amour, c'est le don, c'est l'accueil de l'autre. Et puis le but, ce n'est peut-être pas non plus d'être dans une errance perpétuelle. Mais c'est de faire comme les mages qui savent rentrer chez eux à chaque fois, mais qui rentrent par un autre chemin, c'est-à-dire qu'ils sont transformés. Et je crois que les mages ont découvert quelque chose, et ils sont revenus chez eux, différents et recréés. Et eux qui cherchaient la lumière, ils vont la trouver au-delà de toute espérance. Alors ils reviennent chez eux, ils ne recevront pas de cadeaux, mais ils en donnent. Et sans rien attendre en retour, ils sont allés adorer, à contresens de toute l'idolâtrie. Et puis, vous disais-je, ils ne restent pas sur place, ils rentrent chez eux. Et le Christ ne leur donnera rien de matériel, mais il leur donnera de rentrer chez eux par un autre chemin. Et ce chemin, certainement, les aura transformés, parce qu'ils auront découvert une lumière qui est au-delà de toute lumière. Ils auront découvert un astre radieux qui est plus qu'une étoile qui brille dans le ciel. Leur vie aura été toute différente par un chemin qui est, je dirais, qui était un chemin de disponibilité par rapport au Seigneur. Et donc ces mages, vous disais-je, montrés en exemple aux enfants, ne sont peut-être pas si sages qu'on a voulu le dire, mais c'est justement ces mages passages qui nous montrent le chemin de la lumière et de l'amour. Amen.